grand témoin. Bonjour et bon dimanche à vous. Grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Bosseko. Et à Bosseko, il est professeur, 33 ans dans l'enseignement. Jacques Bosseko et à Bosseko vient de publier un ouvrage intitulé Le mythe d'Inakale, au-delà des nœuds et pesanteurs de la vie en Afrique noire. Dans cet ouvrage, l'auteur élève les divers nœuds qui étranglent l'Afrique et les multiples pesanteurs qui la rabaissent. On va en parler dans cette émission. Monsieur professeur Jacques, bonjour.
Bonjour, bonjour Kelly.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Et c'est aussi un très grand plaisir pour moi d'être devant vous dans ce studio magnifique de Radio Okapi.
Merci. Voilà, avec vous dans notre entretien, on va parler de votre expérience dans l'enseignement. 33 ans, c'est toute une vie.
Oui, toute une jeunesse consacrée à la formation de la jeunesse. Je crois que ça a été un métier qui vous prend tout votre temps, aussi bien au service qu'à la maison. Des cours à préparer, des prévisions de matière. Vraiment, c'est finalement une passion. Et on en a profité pour tirer des enseignements, pour tirer des leçons pour les autres, peut-être pour les guider aussi.
Voilà, on parlera de cette expérience et les écoles dans lesquelles vous avez donné cours, professeur. Mais au-delà de cette expérience dans l'enseignement, on va parler aussi de votre ouvrage, je l'ai dit, Le mythe d'Inakale, au-delà des nœuds et des pesanteurs de la vie en Afrique noire. Brièvement, de quoi est-il question avant d'aller en profondeur?
Oui, avant d'aller en profondeur, c'est, je crois, l'ensemble de la problématique de l'homme noir aujourd'hui et qui passe par la thématique de la négritude, par la thématique de l'authenticité et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes embarqués dans la mondialisation et apparemment nous traînons les pieds alors qu'on aurait pu peut-être aspirer à plus d'émergence.
Merci, professeur. Vous êtes né à Kinshasa.
Oui.
Kinshasa, le 26 septembre 1957.
Oui.
Et à Kinshasa, vous avez grandi, vous avez passé presque toute votre vie.
Oui, sur Louvungi, dans la commune de Kinshasa. L'école primaire, c'était à Saint-Pierre, donc j'y allais à pied. J'ai terminé Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Je suis allé à Kisantu, où j'ai terminé le cycle d'orientation. Et finalement, je suis rentré à Kinshasa, au collège Woboto, où j'ai achevé mes études de latin philo en 1977.
Latin philo au collège Woboto,
oui.
Chez les prêtres.
Les jésuites, oui.
Les jésuites, voilà.
Oui.
Vous avez donné aussi au cours au collège. On va en parler dans votre expérience professionnelle, dans votre parcours professionnel.
C'est ça. Donc, au retour de l'université, j'ai fait l'escapade dans les Mayombe. Je voulais me reposer et tout le reste. Et puis, l'histoire m'a récupéré. Le père André Knokart, qui donnait cours de philosophie, de français et des latins, et finalement, est venu me repêcher. Donc, je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé et avec... c'était le courant du départ des coopérants belges. Donc, c'est la première promotion des professeurs noirs. Et nous avons pris ce relais. Ça a été dur. Vraiment, on a fait des preuves. Avant nous, au collège Woboto, il y avait eu 4 ou 5 diplômes ratés. Et quand nous y sommes arrivés, en tout cas les 12 ans, 13 ans que j'ai passé là-bas, il n'y a jamais eu d'échec.
On en parle tout à l'heure. Oui. Vous avez une licence en philologie romane à la faculté de philosophie et lettres du campus de Lubumbashi.
Oui, à l'époque, c'est l'UNASA. Mobutu avait évidemment déplacé les facultés des lettres après les événements de 68. La faculté des lettres, les sciences sociales sont allées à Lubumbashi et à Kinshasa, il n'y avait plus que le droit, la médecine et autres. Hein. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi.
Philologie?
Oui, en philologie, et finalement, c'est devenu langue et littérature française, pour faire authenticité, entre guillemets, à l'époque. Hein. Donc, la philologie, c'est en fait l'ouverture à la culture en général. C'est au-delà de la philosophie, parce que la philosophie, c'est peut-être la réflexion, mais la philologie, c'est à partir des textes. Hein. Comment approfondir les textes, comment comprendre les textes, les structurer, et ainsi de suite. Hein.
Pourquoi avoir fait ce choix?
Oui, c'était vraiment un choix incongru à l'époque où tout le monde a opté pour le droit, la médecine. Il y avait des promesses, hein, des promesses de vie plus équilibrées, plus harmonieuses. Et nous, on a choisi en fait la misère. En fait, c'était ça le choix. Quoi. Donc, j'ai été l'unique, peut-être pendant 10 ans au collège Woboto, on n'a jamais plus eu de gens qui avaient opté pour ça. J'étais le seul.
Pourquoi vous dites que vous avez choisi la misère?
Oui, parce que c'est un créneau qui, jusqu'à ce jour, ne nourrit pas son homme. Donc, c'est vraiment un apostolat.
Vous avez aimé ça?
Ah oui, ça, j'ai adoré. C'est fabuleux. Des gens qui arrivent comme ça et qui savent pas sur quel pied danser, et puis au fur et à mesure, vous leur donnez une assurance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vie? Ils deviennent autonomes, ils sont capables d'initiative. C'est ce que parfois les parents n'arrivent pas à faire. Je crois que ça a été quand même un métier très, très enrichissant.
Jacques Bosseko, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir de mon enfance, c'est le bonheur de l'innocence. C'est ce Kinshasa de ces années-là. En fait, où il n'y avait ni Kuluna, ni quoi, et vraiment, moi, je crois que c'était le bonheur parfait. Et le grand souvenir, c'est cette vie-là.
Il n'y avait pas d'école buissonnière à cette époque-là. Les élèves allaient à l'école, avaient envie d'apprendre.
Absolument, l'école, c'était vraiment un lieu de jeu, de fraternité. Alors qu'aujourd'hui, parfois, l'école, c'est le lieu de la violence, c'est le lieu de la dépravation. Et tout le... je crois que c'était ça, le bonheur. Hein. Si le bonheur est dans le passé, ben, je crois qu'il faut peut-être construire aussi dans le futur un autre bonheur, si possible.
Vous êtes marié, père de 3 enfants.
Oui.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Jacques Bosseko?
Ce que je n'aime pas dans la vie, je crois que c'est surtout le mensonge, l'irresponsabilité, la fuite des responsabilités, la peur de l'avenir. Moi, je crois que l'homme doit prendre confiance en lui-même. Il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. Et je crois que si on démissionne à ce niveau-là, c'est vrai, il y a la tentation, il y a aussi des évasions, il y a la drogue, il y a le chanvre, il y a le plaisir. Mais je crois que si l'homme reste vraiment en lui-même, capable d'initiative, je crois qu'il peut tirer vers le haut l'ensemble de la société.
C'est quoi votre plat préféré?
Le pondou, les légumes, le poisson, les makemba.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Bosseko, après l'université, vous êtes reposé dans le Mayombe pendant quelque temps.
Oh oui, à Kangou, dans le Mayombe, oui. Mm-hmm.
Avant de commencer à donner cours au collège Boboto.
Oui, j'en ai été brutalement extirpé. On m'a vraiment recherché à la loupe. Il est allé où? On comptait sur lui, mais comment il disparaît? C'est comme ça qu'un jésuite du nom de André Nocarte, qui est venu me retrouver, m'a ramené à Kinshasa.
Vous étiez un élève brillant pour qu'on vous recherche comme ça.
Oui, en tout cas, j'ai été rédacteur en chef de la revue Tam Tam du collège Boboto. Je ne sais pas si c'est ça être brillant, mais apparemment, j'ai rendu des services dans ces matières-là.
Vous commencez à donner cours en 1982?
Oui, dans le Mayombe, pour venir achever finalement à Kinshasa et continuer au collège Boboto.
Ah, il y avait une extension dans le Mayombe, du collège?
Non, c'est le collège de Kangou, dans le Mayombe. Je me suis dit, si je rentrais directement à Kinshasa, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, revenir encore à Kinshasa, et j'ai voulu quand même faire une transition. Je me dis, nous qui n'avons pas été du village, hein, on a toujours rêvé d'aller voir un peu de plus près comment les gens vivent dans les villages, qu'est-ce que c'est que le village, même si la plupart des gens en ont peur ou quoi, ben moi je me suis dit, je vais voir un peu comment vivent les gens dans les villages. C'était le fruit peut-être d'une expérience personnelle. J'ai fait le tour du Kivu, j'ai fait Kisangani comme étudiant. Hein. Mm-hmm. C'était vraiment à l'époque, alors je me suis dit... Je me suis mis à admirer la simplicité de la vie des Pygmées. Je me suis dit, mais il faut les imaginer heureux. C'est nous qui avons des canons et tout le reste, mais ces gens ont survécu, ont traversé des siècles, des millénaires, et dans cet état-là. Est-ce que finalement la vie, c'est pas à l'intérieur de l'homme, et que toute la quincaillerie qui nous accompagne du dehors n'était que des illusions? C'était ça un peu le but de mon escapade dans le Mayombe.
Vous faites partie de la première promotion des enseignants ou professeurs noirs après le départ des Belges.
Oui, des coopérants belges.
Oui. Est-ce que vous avez été préparé? Parce que on dit souvent que les Belges sont partis sans avoir préparé les Congolais à pouvoir prendre la relève dans l'administration, dans l'enseignement. Est-ce que vous avez été préparé?
Préparé, c'est pas vraiment un mot que j'adore. Hein. Moi, je crois que quand on vous prépare, finalement, vous ne saurez plus voler de vos propres ailes. Hein. Moi, je crois que c'est comme ça que je me suis dit que finalement, on ne forme pas des élites. Oui, il y a la formation scolaire, mais je crois qu'on doit susciter des élites, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'on leur a donné, et non pas ristourner à la longueur des temps. Parfois, avec le progrès, le monde, c'est devenu des fossiles, c'est-à-dire ils ne s'adaptent pas à la modernité. Alors, ils ont été préparés à quoi? À un statu quo, alors que le monde avance. Et à un moment donné, ils deviennent inutiles parce qu'ils ne s'adaptent plus. Ils étaient valables pour un milieu donné. Donc, c'est comme ça que ça a bouleversé aussi ma conception de la vie. J'ai horreur de former les gens. Moi, je crois qu'il faut les déformer. C'est-à-dire les amener à prendre plus conscience d'eux-mêmes, alors qu'on aimerait dépendre d'un maître, faire comme lui.
Enseigner, c'est pas former ?
Oui, d'après les créneaux, parce que l'enseignement ne vient pas de nous, nous sortions de entre guillemets, d'après l'Occident, de l'âge de la pierre taillée et tout le reste. L'Occident nous amène l'école, nous passons du village à l'école, c'est-à-dire de l'initiation traditionnelle à l'école. Et l'école, c'est en fait un lieu d'apprivoisement et où nous n'avions rien à dire, on a subi. Il fallait mémoriser en français, il fallait mémoriser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des têtes pleines. Mais finalement, devant les réalités, les responsabilités que l'on doit assumer, on est sans boussole, on est perdu.
Professeur Jacques Bosseco, au collège, vous avez donné cours en classe terminale.
En classe terminale. J'ai lutté pour qu'on me rabatte en 3e, 4e, mais on a dit que ce n'était pas possible. Tu restes là, c'était une éternité, j'en ai parfois souffert.
5e et 6e.
Oui, 5e et 6e, oui.
En parlant du collège Mobutu, on a contacté quelqu'un.
Ah, quelqu'un ?
Ouais, quelqu'un à qui vous avez donné cours au collège Mobutu, qui nous a parlé un peu de vous. On va l'écouter, puis on se retrouve juste après.
Mon nom est Arsène Ijambo, je suis architecte, enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et membre du Conseil économique et social.
Monsieur Arsène Ijambo, nous sommes dans ce studio avec le professeur Jacques Bosseco et Abosseco, que vous connaissez très bien, puisqu'il vous a donné cours.
Oui, tout à fait, il m'a donné cours en l'année académique 85-86 au Collège Mobutu, tout à fait.
Il vous a donné quel cours ?
Alors, il me donnait un cours de français, un cours de philosophie.
C'était quel genre de professeur ? Très rigoureux avec les élèves, très dur ?
Non, pas particulièrement dur. En tout cas, c'est vraiment pas l'aspect qui m'a retenu des moments qu'on a eu à passer avec lui. Non, au contraire, c'est le type de professeur qui vous marque, le type de professeur qu'on n'oublie pas, quoi. Voilà, tout simplement. Je crois que le plus grand mérite du professeur Bosseco, c'est que dans une période qui était charnière pour nous, entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, puisque après on allait à l'université et pour certains on quittait nos familles, il nous a aidé à poser les bonnes questions en tant qu'homme, en tant qu'Africain, en tant que Congolais. Et je pense que son combat s'inscrit dans une démarche vraiment de nous assumer, d'assumer notre destin en tant qu'homme, en tant qu'Africain, en tant que Congolais. Et j'ai aussi le sentiment que sa conviction, sa plus profonde, je pense, dans le métier qu'il a fait de transmettre des connaissances, c'est que nous, en tant qu'Africains, on disposait d'autant de clés que les Asiatiques ou que les Occidentaux pour assumer notre destin. Et ça, à cette période-là, ça donnait énormément de perspectives pour nous qui étions encore très jeunes, qui abordions l'université, d'avoir un professeur qui vous donne, qui quitte le discours traditionnel, l'Afrique est malade, certes, l'Afrique est malade, mais il nous donne des clés, en tout cas pour nous inscrire dans un combat qui nous permet de nous dépasser, d'échapper à ces pesanteurs et de fixer les perspectives à nos destins respectifs.
Alors Arsène, quel bon souvenir vous gardez du professeur Bosseco?
Oui, non, les bons souvenirs, c'est avec vraiment délectation qu'on abordait son cours de français, son cours de philosophie, puisque c'était un véritable échange sur les visions du monde, et sur les réflexions, sur les questions que nous pose notre société, c'est ça. Enfin, moi, j'avais énormément de plaisir à entamer son cours.
Il est dans ce studio avec moi, un petit mot à lui dire.
Il y a peut-être que lui qui comprendra ça, et éventuellement, les amis, dites-lui que je n'ai pas oublié mon cahier français, je ne l'ai pas perdu.
Oh là là,
d'accord, merci souvenir beaucoup immense, Arsène.
C'est moi qui vous remercie, madame, excellente journée.
Merci. Alors, professeur, lorsque vous donniez cours, les élèves étaient emballés, cours de français, de philosophie, vous emballiez vos élèves.
Oui, j'avais, en fait, j'ai une arme, hein, c'est l'humour, hein, c'est ce qui m'a permis de survivre, hein, l'humour, hein, à tout moment, je me réfugie dans l'humour, mais en fait, ce sont des choses sérieuses, mais que nous disons avec familiarité, avec, et comme il vient de terminer, avec le cahier de français, là. Hein.
Je vous sens tout ému, là.
Oui, terrible, hein, parce que c'est des vieux souvenirs, hein. Je vois Ijambo, je vois aussi sa sœur, hein. On a eu comme ça deux, trois, quatre filles, de temps en temps au collège, pour faire les maths physiques, la biochimie, parce qu'il n'y en avait pas au lycée. Donc je me rappelle bien d'Ijambo, c'est fabuleux quoi, je me dis c'est pas possible. C'est...
Alors après le collège, vous avez donné cours au collège de 1982 à 94.
Oui, 94, oui.
Pour aller ensuite au collège scolaire Cardinal Laloula.
Oui, j'ai marqué une pause, je me suis dit après 13-14 ans, il fallait peut-être une année sabbatique. Alors j'ai étudié au collège, j'ai travaillé au collège, je me disais mais peut-être que ma biographie n'aurait pas grand-chose le jour de ma mort, hein, autant peut-être élargir quelques pages ailleurs, avec d'autres personnes, d'autres expériences. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au complexe scolaire Cardinal Laloula.
Vous avez cours oui, également
à Saint-Cagua, au Philosophat Saint-Cagua et au petit séminaire Cardinal Laloula aussi.
Là, vous donnez cours aux abbés
ou oui, aux prêtres, aux futurs prêtres et tout le reste, oui, c'est ça. Donc, les 10 promotions qui viennent de passer et les 10 autres qui viendront, bon, ce sont mes abbés. Enfin, vous... j'exagère, hein.
Vous, quand vous rencontrez vos élèves comme ça en cours de route, ça vous fait quoi?
Je n'aime pas trop m'arrêter devant cela parce que c'est des choses dont nous parlions déjà avant. Quand j'ai parlé de ce cahier-là, je leur disais simplement que dès que nous nous retrouvons, moi je ne te vois pas toi, je vois ton cahier de français. Qu'est-ce que tu en as fait? Le contenu. Et c'est ça le résultat de ta vie. Par rapport à ce cahier-là, tu as pris des notes, et finalement, quand je te vois, est-ce que tu corresponds à ce cahier ou tu es autre chose? Donc, il y en a qui détournent le regard, il y en a qui m'embrassent.
Et vous rappelle qu'ils gardent toujours leur cahier de français.
Oui, pour certains, il y en a qui ont pleuré. C'est mon grand frère qui est parti avec. Je le recherche, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors, ça devient comme ça des sujets d'échange. Mais je crois que la plupart d'entre eux sont devenus plus sérieux. Et beaucoup me disent que vous avez été un visionnaire. Vous avez vu des choses qui allaient venir. Et comment vous continuez à vous taire? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer quand même de... Alors je me suis dit, peut-être que c'est trop dangereux, parce que finalement je me dis, bon, je mets par écrit. Alors ils m'ont poussé, il faut écrire. Moi je pensais peut-être publier après ma pension.
Ce sont vos élèves qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage?
Je n'y ai pas mis un seul helicouta. Donc, tel que vous le voyez le livre, je n'ai pas sorti de toute façon, j'étais déjà pris les frais des académiques de mes enfants. Et c'est eux qui ont pris en charge tout, hein. Je vois...
Ça veut dire que vous les avez marqués?
Oui, il n'y a que vous qui pouvez le confirmer, je crois. Il y a qui amène un ordinateur, qui dérame les papiers, qui pour payer la dactylographie, qui pour aller jusqu'en Turquie, qui pour faire imprimer le livre, qui pour faire dédouaner. Ils ont pris en charge le livre. Hein. Je crois que c'est mon bonheur, quoi.
Alors parlons de l'enseignement, professeur. Oui. Aujourd'hui, on dit que le niveau de l'enseignement a quand même baissé au Congo, contrairement aux années 60, 70. Aujourd'hui, le niveau est vraiment au plus bas.
Au plus bas parce que c'est le programme qui est au plus bas. Ben, si l'école a fonctionné sous la modalité d'une programmation coloniale, c'est-à-dire le projet colonial qui voulait par un quadrillage du domaine spatio-temporel africain, l'érection d'infrastructures matérielles, les écoles, les hôpitaux, mais c'est aussi la Jecamine, c'est aussi la MIBA, et c'est la Pelzette, des sociétés et tout le reste, il fallait des gens pour pouvoir faire tourner cette machine. Et c'est ça l'école. C'est-à-dire des individus programmés à être secrétaire de bureau, à être ingénieur, à être. Mais en réalité, ce n'est pas pour innover, mais c'est en fait pour assumer des responsabilités d'une tradition déjà écrite. Donc, il se pose un problème. Lorsque le blanc s'en va et que le monde change, il devient difficile pour l'Africain de s'assumer, et il est perdu, il n'a plus de repères, et ça devient, et c'est comme ça qu'on a l'impression que l'enseignement est au rabais. Moi je me dis par exemple aujourd'hui, si par exemple on disait, hein, j'invente, hein, que pour quelqu'un qui fait l'électronique, pour quelqu'un qui a opté pour la polytechnique, si au Congo il y a eu une dame qui est parvenue à nous donner ce robot roulage, hein, alors moi je me dis ailleurs, on dirait par exemple que la première année en polytechnique, à la fin de cette année, chacun de nos étudiants doit être capable de reproduire ce robot. Moi, je crois que là, on ne produirait pas des gens médiocres, parce que de la première jusqu'en dernière année d'ingénieur, cet homme qui, en première année, s'accroche à un savoir produit sur place, qui n'est pas des cosinus, des tangentes, des choses qu'on voit, on ne sait pas d'où ça vient, il faut mémoriser. Mais je crois que si on partait par là, pour l'IBTP, on vous place en première année devant un pont à construire entre Matongé et Kaouka, et que à la fin de votre graduat, vous avez contribué à créer ce petit pont, tant bien que mal, je crois qu'il y a des choses qui se greffent, et je crois que la médiocrité va reculer, et c'est cette programmation à la créativité, à l'initiative personnelle, je crois que c'est ce qui nous manque. Donc le rabais dont on parle...
C'est au niveau du programme...
Je pense, et des animateurs...
C'est le même programme qu'on utilise depuis des décennies, et qui ne sont pas mis à jour, quoi.
Chaque fois qu'on met à jour, c'est pour vous ajouter un cours d'informatique, c'est pour vous ajouter l'hymne national qui change, hein, de génération en génération. À l'époque de Mobutu, la Zaïroise, et puis, bon, c'est ça que nous appelons les réformes, hein, donc c'est purement superficiel. Ça ne va pas au cœur de l'action, ça ne va pas au cœur de la responsabilité. L'homme, en fait, assiste impuissant à la misère, au désordre, au chaos, et il ne peut pas influer là-dedans. L'économiste, c'est de la théorie, incapable de gérer même un petit ligablo, parce qu'on voit le Chinois arriver ici, nous vendre un petit rien et gagner de l'argent, construire chez lui. Alors, l'économiste, est-ce qu'il est économiste parce que c'est pour parler de macroéconomie ou c'est pour résoudre concrètement les problèmes de la vie?
Le programme que nous utilisons, si je ne m'abuse, c'est le programme laissé par les Belges.
Jusqu'à preuve du contraire. Même les manuels n'ont pas vraiment évolué. Hein.
Est-ce qu'il faudra un programme congolais?
C'est mon rêve.
Ou bien il faut mettre les deux ensemble, essayer de ajouter au programme européen que nous avons un programme congolais.
Mais oui, si nous avons les matières premières et que l'Occident n'en a pas, c'est de l'intérêt de l'Occident de nous prendre en apprivoisement pour pouvoir mieux exploiter nos ressources et tout le reste. Hein. Si nous, Congolais, nous parvenons à transformer sur place le cuivre, à transformer sur place le diamant, le cobalt, le coltran, mais peut-être c'est aussi la misère de l'Occident. Et je crois qu'il y a là un jeu. Il y a toujours des subsides, on nous renvoie des manuels, on nous renvoie des ceci, on nous distribue. Et nous sommes dans cette passivité-là, l'incapacité de créer nous-mêmes nos propres ouvrages. Il faut attendre que telle coopération, telle ceci, nous donne, parfois par le canal des organismes internationaux. Et tout. C'est l'infantilisation permanente, hein. J'exagère, hein, c'est sûr.
Alors professeur, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Oh, ben plus par la lecture, le petit jardinage, des petits canards à élever, des poules, des petits champs à la maison, c'est pour se distraire, c'est déstresser un peu là.
Qu'est-ce que vous aimez lire? Vous lisez tout?
En tout cas, je lis tout, c'est-à-dire, je me dis, nous sommes à la charnière d'une civilisation, les élites doivent être capables d'ouvrir plusieurs tiroirs. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de restreindre le champ du savoir, mais je crois que les élites aujourd'hui doivent embrasser l'horizon dans sa totalité. C'est-à-dire, je peux dire un mot sur la santé, je peux dire un mot sur, oui, la santé, pas seulement des autres, mais ma propre santé aussi. Qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce que je dois tout manger? Est-ce qu'il n'y a pas de malbouffe? Je crois que c'est cette culture-là d'ouverture à tous les possibles, et c'est ça qui enrichit l'homme. Et c'est ça mes champs de lecture.
Il vous arrive d'écouter la musique, hein?
Oh oui, on est né à Kinshasa, on ne peut pas s'en passer. Hein. Déjà au collège, hein, y a le théâtre et tout le reste. Manuaku Waku arrive, nous déclamons des poèmes, et les Aïko est là, les Ngilenga, c'est, ça nous colle à la peau, on est né là, et moi je suis de Kauka, les Ngilenga de Kauka, donc c'est, on a vu tous ces gens-là, les Papa Wemba, les qui a étudié à Kauka aussi, à Saint-Jean-Bernard, les Lita Bembo, ça nous colle à la peau, on est là, et c'est, mais je crois qu'il faut transcender, il faut aller au-delà, il faut imaginer d'autres possibles. Je m'ouvre à la musique classique, je m'ouvre à d'autres sonorités également, caribéennes, négro-américains et tout le reste.
Et donc vous retrouvez dans toutes les musiques, quoi.
Oh, vraiment, je suis à l'aise, je ne m'ennuie pas.
Ancienne génération, nouvelle génération.
Ah si, si, les anciennes générations, c'est plus, hein, parce que maintenant c'est plus de la cacophonie, hein, c'est la transe, hein, c'est le délire, hein, c'est... Moi, je crois que quand on voit ce taboulé chanter Congo, Congo, Ndemboka, vraiment, il y a vraiment. Mais aujourd'hui, il y a même des chansons qui sont sans contenu. Et moi, je me dis, je ne m'inscris pas dans un tel créneau. Ben, c'est vendable, c'est rentable, semble-t-il, ça attire les foules, mais je crois que ce n'est pas mon genre.
Mais lorsque vous écoutez la musique, il y a quand même une chanson que vous aimez bien suivre à la maison, que vos enfants connaissent, que votre femme connaît.
Peut-être...
C'est que ça, c'est le style de papa, c'est le goût de papa.
Oui, c'est possible, hein, mais je crois que ça évolue à tout moment. Hein, et puis, il y a des moments où j'ai vraiment
on
été...
On peut poser la question à la maison?
Oui, vous pouvez poser la question, mais je crois que je suis...
Alors, vous allez rester en ligne. Allô, bonjour.
Oui.
Allô, bonjour.
À qui ai-je l'honneur?
Francis Bosseko.
Alors, Francis Bosseko, comment ça va?
Oui, ça va bien.
Je suis dans ce studio avec votre papa.
Oui.
Il écoute quel genre de musique à la maison?
Bon, souvent les anciens succès, il y a Taboulé, il y a Franco.
Quelle chanson?
Il parle aussi de Kassav.
Ah, Kassav aussi?
Oui.
Mais ce qu'il écoute très souvent, c'est Taboulé et Franco?
Oui, souvent.
Quelle chanson par exemple?
Je me souviens plus, mais il y a une histoire que j'ai entendu parler à l'entrée, le jour de son mariage.
Ouais.
Ouais, ils sont entrés avec sa femme, notre maman. La chanson de Yvonne Chaka Chaka.
Ah, Mkomboti.
Ah oui, c'est ça.
Ah, c'est, vous aimez bien la musique africaine?
Oui.
Je crois que c'était une des causes. Hein, quand nous étions étudiants, cette libération de l'Afrique du Sud, tous ces Noirs, nous, on était à Lubumbashi, donc tous ces Zoulous qui venaient jusqu'en Zambie, qui nous voyons, comment ils fouillaient l'apartheid. Il y a eu beaucoup de sympathie. Et puis la radio était là, donc on était branchés sur le jazz sud-africain. Hein,
ça vous ferait plaisir d'écouter ça?
Ah oui, pourquoi pas, en fait, après autant d'années que j'ai quitté Lubumbashi.
Combien d'années?
Depuis 82, donc c'est vraiment...
33 ans. Merci Francis, on va mettre la chanson d'Yvan Chaka Chaka au Kombozi, pour le plaisir de votre père, mais pour votre plaisir aussi, parce que ça vous fait plaisir, cette chanson, ça vous rappelle un peu le mariage de papa et maman.
Oui.
Merci Francis, au revoir.
Au revoir, merci.
Alors, on va demander à Guy Mandangu, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous balancer la chanson Mkomboti de Yvonne Chaka Chaka pour le plaisir du professeur Bosseko et à Bosseko, ainsi que pour tous ceux qui aiment la musique sud-africaine, particulièrement celle d'Yvonne Chaka Chaka. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
When my jamin, wopum komboti. When my jamin, wopum komboti. We'll be right back.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Boseko. Et à Boseko, il est professeur, 33 ans, dans l'enseignement. Je l'ai dit dans mon introduction, Jacques Boseko vient de publier un ouvrage intitulé « Le mythe d'Inakale, au-delà des nœuds et pesanteurs de la vie en Afrique noire ». Il avait commencé déjà à nous résumer cet ouvrage dans lequel il relève les divers nœuds qui étranglent l'Afrique et les multiples pesanteurs qui la rabaissent. C'est quoi, par exemple, Jacques Boseko?
Je crois que quand une société est en crise, hein, en réalité, c'est le mal et la souffrance qui se répandent. C'est lorsque la société ne parvient pas à contenir le mal. Et le mal, il peut être dans la maladie, c'est la faim, c'est les catastrophes naturelles. Mais quand ce mal, cette souffrance se répand, et il y a tendance pour l'homme à se réfugier dans la fatalité. Nous n'en pouvons rien, c'était écrit, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque l'homme se dédouane de sa responsabilité, ça signifie que ce mal qui était extérieur, en réalité, finalement, devient un mal intérieur. Dans la mesure où c'est l'homme, finalement, qui lui-même, ayant opté pour la facilité, pour le défoulement, c'est cet homme qui va maintenant commencer à répandre par la violence, par les coulonnages, par l'irresponsabilité, et c'est cet homme-là qui, par la corruption, par... Donc, si le mal qui était extérieur devient intérieur, le monde devient chaotique. Or...
Et c'est le cas pour l'Afrique?
Oui, parce qu'à tout moment, même pour nos élections, on doit nous financer, pour les gens qui meurent de maladies, Ebola, j'ai vu en Guinée, de l'autre côté, il faut que les autres viennent, c'est une infantilisation permanente. Après 50 ans d'indépendance, après autant d'années qu'on a commencé à produire des biologistes, des botanistes, on a produit des pharmaciens, autant d'années... C'est comme si plus on avance, plus le mal, évidemment, nous habite, nous contourne, et il y en a qui en arrivent à dire que c'est héréditaire, c'est inné, le noir est foutu, noir c'est noir, c'est comme ça. Et moi, je crois que c'est dans le creux de ces ténèbres de désespoir et autres que je me suis dit que l'homme doit cesser d'abord lui-même d'être un problème. Jusque-là, la souffrance qui était extérieure devient intérieure, et quand cette souffrance nous habite, nous devenons les moteurs de la souffrance et du mal.
Professeur Boseko, est-ce que vous pouvez nous expliquer les dessins qu'on trouve sur la couverture de votre ouvrage? Je vois des animaux, il y a le lion, la colombe, le serpent, le crocodile. Quel message vous voulez faire passer à travers cette image?
La domination, c'est le lion. C'est une symbolique que nous retrouvons dans la tradition de l'oralité africaine, le roi des animaux. Mm-hmm. Tout le monde doit obéir. En fait, chacun d'entre nous est un lion en puissance, comme père de famille, comme mère de famille, comme responsable de la société, et ainsi de suite. Et si la même personne, évidemment, ne se déprend pas de ses bas instincts de jouissance, et ça c'est le crocodile. Le crocodile avec la symbolique de l'eau, même dans l'enfant qui fait 9 mois dans le sein maternel, baigne dans le liquide amniotique, c'est le monde de désir, de plaisir, et jusqu'à ce qu'il doit être évacué, il doit partir, et puis il s'accroche au sein maternel, et finalement le sévrage, l'homme s'accroche au plaisir, il veut pas, et le sévrage est toujours douloureux aussi pour l'enfant, il faut qu'on le prenne en charge. Et beaucoup d'entre nous sont tellement accrochés à cela que finalement pour vivre, d'autres choisissent d'être serpents, c'est-à-dire le mensonge. Il raconte une chose à l'un et il va raconter à l'autre, et quand ça télescope, il est en paix.
Les conflits.
Oui, et absolument. Donc cette image d'Inakale, moi je me dis...
Alors, parenthèse, Inakale signifie quoi?
traduction littérale, Ina, I, le, c'est l'impersonnel en swahili, hein? Ina, Kale, Kale, je crois que c'est comme en français, est bloqué, Kangami, Ina, Kwama, Ina. Donc, okay. Ils ne s'en sortiront pas, c'est bloqué, c'est. Oui. Alors, quand on a le serpent avec le mensonge et tout le reste, bon, c'est même bibliquement parlant, Adam et Ève ont été trompés par le serpent, c'est une symbolique. Et je me dis que c'est cette Afrique qui a produit de l'intérieur ce schéma de spiritualisation, c'est-à-dire l'homme qui peut aller au-delà de lui-même en se départissant, entre autres, en mettant de côté l'orgueil, en mettant de côté la jouissance, en mettant... Mais c'est un prix à payer, c'est le sacrifice. Et j'ai appelé ce schéma, c'est un schéma de spiritualisation. Uh-huh. Et pour rejoindre la colombe, parce qu'au-delà du serpent, il est presque pas visible, il y a la colombe qui étincelle. Ça, c'est le germe d'étincelle primordiale. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour ressembler à Dieu, c'est-à-dire recréer le monde, le rendre plus beau. Donc, il a en lui ce germe, et il faudra par le cas. Le cas, c'est quoi? C'est l'indétermination. Ne plus être déterminé par ce qu'on mange. Ne plus être déterminé par ses origines tribales. On s'accroche à la tribu. On est tribaliste. On est régionaliste. Mais apparemment, même la tribu ne marche pas. À nous, Bisoba Congo, bon, pourquoi Ngaye Bisoba Ntandu, il n'y a jamais eu de gouverneur Muntandu, Bazalaka, Bayombe. Quand vous arrivez chez les Bayombe, ah, pourquoi même chez nous, les Bayombe, il n'y a que tel clan qui est au pouvoir? Nous, on a... Donc, c'est une illusion, le tribalisme, et c'est ce qui est d'ailleurs prouvé par les études de Théophile Obenga, les mots qu'il y a en Chiluba et en Kikongo. Si vous voyez ce corpus-là, en réalité, il n'y a pas de différence entre les Kikongo et les Chiluba. Il n'y a pas de différence entre le Zoulou en Afrique du Sud et le Manyanga du Bas-Congo. Donc, ce sont des illusions que... Et parce que nous avons été... Évidemment, mis dans un parc naturel, l'Occident a découpé l'Afrique sans notre accord. Ben, les Bakongo se sont retrouvés et en Angola, et au Congo-Brazzaville, et une partie au Gabon. Et aujourd'hui, nous sommes incapables, nous sommes même capables de nous entretuer sur des choses qui ne correspondent à rien du tout, alors que c'est le même peuple partout.
Puisque vous relevez les divers nœuds qui étranglent l'Afrique, oui. Aujourd'hui, l'homme africain n'est pas capable de briser toutes ces chaînes, de dénouer tous ces nœuds-là?
Oui, il faut d'abord qu'il prenne conscience. Et pour qu'il prenne conscience, peut-être qu'il faut que cela soit un travail fait à la racine, à la source. Hein. C'est-à-dire, il faut prendre la jeunesse. Parfois avec nous qui sommes âgés et tout le reste, bon, parce que nous sommes cristallisés parfois dans le mal, et il devient difficile de faire marche arrière, on est dans le mensonge, il n'y a plus moyen de faire autre chose.
Et on transfère ça à la jeunesse.
Oui, parce que ce mal devient héréditaire, parce que culturellement, les chansons vous traduisent la facilité, les chansons, la jouissance, les chansons, la domination. Je crois que ce sont des thématiques qui imprègnent et qui s'imprègnent dans la langue et qu'on récupère et qui nous, inconsciemment d'ailleurs, jusque dans nos familles, les genres de musique que nous choisissons, nous abîmons nos enfants sans le savoir. Et c'est alors que nous devenons des pions malléable entre les mains de ceux qui voudraient bien, évidemment, nous manipuler.
C'était quoi votre objectif en publiant le mythe d'Inakale?
Inquiéter.
Inquiéter.
Ah oui, nous devons être inquiets, c'est-à-dire, il n'y a pas à se reposer, il ne faut pas faire la sieste, parce que le mal est là, la souffrance avance. Est-ce qu'on a le temps d'être distrait? Il faut inquiéter, nous devons nous interroger, pourquoi ça? Et c'est comme ça que, dans ce dialogue... par nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous finirons par produire des élites spirituelles, des élites musicales, des élites économiques, des élites et ainsi de suite. Et pour que cette paix que nous recherchons tous loge d'abord dans les cœurs, pour que la vérité, s'il y a le mensonge en famille, je crois que même la famille devient insupportable. Alors les valeurs de vérité, les valeurs de justice, les valeurs de liberté, les valeurs de paix, ce sont des valeurs que nous devons fonder spirituellement et non pas par un culte que nous rendons à un Dieu, entre guillemets, qui ne répond pas. Et chez nous, la spiritualisation n'a pas encore commencé parce que nous sommes plus fidèles à des rites. Selon que je suis musulman, il y a un rite à suivre, mais ça ne modifie en rien mon intériorité humaine. Je suis un menteur, mais pendant la messe, je prie Dieu et tout le reste, je communie, et tout, je suis malhonnête, je suis ceci, je suis cela. Mais je crois que si, même en n'allant pas à l'église, même en restant chez soi, sans même augmenter le volume des baffles, on croit que la spiritualité, c'est la quantité de décibels que trois ou quatre personnes réunies en un lieu, en vociférant, peuvent demander à Dieu, évidemment, d'accomplir à leur place, évidemment, les responsabilités qui leur reviennent.
Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage?
Je crois que c'est à partir du mois de juin, c'est-à-dire vers mi-juin, que le livre sera disponible au niveau de la maison d'édition et tout le monde sera renseigné à partir du collège Roboto, à partir du complexe scolaire Kadna Malula, à partir des Nyangwe où il y a l'ONG Elongo Elonga. Donc je crois que c'est à partir du 15 juin, je crois que ce sera déjà disponible.
On peut avoir une idée sur le coût, le prix?
Oui, je crois que ce sera autour de 50 $, 45 000 francs et c'est... Je crois que ça, c'est, il y a la douane, il y a les transports, il y a les, ça, on n'a pas pu éditer ça sur place, donc.
C'est qui la cible?
Oh ben, vous et moi. Les hommes de bonne volonté, ceux qui sont ouverts, ceux qui acceptent la remise en question, ceux qui sont capables de sacrifice de soi, ceux qui peuvent renoncer à leur sommeil, qui peuvent renoncer, parce que c'est un livre très ardu pour y pénétrer. Parfois, il faut un petit dictionnaire à côté pour. Parce que le texte, je l'ai voulu assez musclé pour peut-être aussi répondre à des élites presque dévoyées. Donc, je crois qu'il faut que l'Afrique soit capable, de l'intérieur, par elle-même, de poser les fondements de son propre devenir et de construire son bonheur.
Professeur Jacques Boseko, c'était un plaisir, encore une fois, je répète, un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Ah, merci beaucoup Kelly, c'est à moi de vous remercier, c'est une occasion unique, je n'ai jamais été dans un studio de radio, donc c'est pour la première fois et vous avez été là, merci beaucoup.
Merci beaucoup Jacques Boseko et à Boseko, je rappelle que c'était vous notre grand témoin de ce dimanche, vous êtes professeur 33 ans dans l'enseignement. Merci à Guy Manzangou qui était à la prise de son au micro Kevin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokati.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.